Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Laurent Zimmermann, qui publie Rimbaud ou la dispersion aux éditions Cécile Defaux. Fait de remarquer que la dispersion, ou plus exactement la force dispersive, est constitutive de l'œuvre en tant que telle, de ce que nous appelons œuvre, mais qui n'est pas véritablement, si du moins nous entendons par ce mot ce qui rassemble, unifie, rend cohérent. Rimbaud a trop souvent rencontré la dispersion pour que celle-ci puisse être pensée comme autre chose qu'une partie et une partie importante de ce qu'il cherchait à inventer. Vous avez publié des textes dans de nombreuses revues, Laurent Zimmermann, L'Infini par exemple, Critique, L'Inactuel ou Littérature. Vous avez publié un essai, il n'y a pas très longtemps, chez Herman, La littérature et l'ivresse, Rabelais, Baudelaire, Apollinaire. Et vous avez dirigé des collectifs, L'Aujourd'hui du roman chez Cécile Defaux et chez ce même éditeur, Pensé par les images, autour des travaux de Georges Didier Huberman. Aujourd'hui, c'est sur Rimbaud que vous travaillez. Il y a le livre dont vous êtes l'auteur, dont nous allons parler, chez Cécile Defaux, Rimbaud ou la dispersion, et un texte dont vous êtes d'une certaine façon l'éditeur, puisque c'est vous qui le préfacez, un texte de Jean-Louis Baudry, intitulé « Le texte de Rimbaud ». C'est chez Cécile Defaux également. Rimbaud, on ne peut pas cacher qu'il y a de très nombreux livres qui lui sont consacrés. Il y a maintenant une trentaine ou une quarantaine d'années, et Tiamble avait recensé un nombre de références considérables. Je pense que depuis la publication du mythe Rimbaud, cette bibliographie s'est considérablement augmentée et ça ne vous a pas découragé pour écrire ce Rimbaud ?
Non, en effet. Cette bibliographie est effectivement tout à fait considérable. Encore plus depuis quelques mois, puisque une nouvelle édition de la Pléiade est sortie dernièrement, qui s'accompagne, et puis Rimbaud est au programme. L'agrégation qui s'accompagne de nombreuses publications, dont certaines tout à fait importantes.
L'édition de la Pléiade a fait un peu polémique pendant un temps. Hein. Vous partagez les critiques qui lui ont été adressées ?
Oui et non, mais surtout non. En fait, cette édition est l'édition de référence à bien des égards. Elle est indiscutable. C'est une édition qui est très bien faite. Il y a certains points qui peuvent faire discussion, mais pour l'essentiel, c'est l'édition de référence. À peu près tout le monde le reconnaît, même si les Rimbaldiens peuvent préférer, pour étudier tel ou tel texte, aller vers une édition plus fournie en notes, des choses comme ça, mais c'est pour les spécialistes, pour l'édition de référence, pour le grand public éclairé, disons, la Pléiade s'impose, oui.
Rimbaud dans la Pléiade, c'est un livre que vous relisez souvent ?
Oui, pas seulement dans la Pléiade, oui. Je lis beaucoup Rimbaud, je l'ai beaucoup lu, et il m'a semblé qu'il était possible de dire encore quelque chose sur Rimbaud, malgré la profusion de cette bibliographie. J'ai essayé de saisir quelque chose de singulier, de produire une approche de Rimbaud sous un angle précis, qui ne prétend pas évidemment fournir une vue exhaustive de l'œuvre, mais ce qui m'a intéressé, c'est cette question effectivement de la dispersion. On a tôt fait, lorsqu'on s'intéresse à Rimbaud, de remarquer cette dispersion, de remarquer que l'œuvre est constituée d'une manière qui peut être d'une manière qui s'identifie assez facilement à une grande dispersion. D'ailleurs, l'édition de la Pléiade a ceci de particulier qu'elle produit les textes à la suite, sans chercher à produire des rassemblements artificiels. Mmh. Ceci parce qu'effectivement, l'œuvre est dispersée. Mmh.
C'est-à-dire consécutive à une suite d'accidents biographiques, comme on le remarque souvent.
Alors, voilà, c'est l'hypothèse que l'on pose souvent. C'est une chose qui se défend, évidemment. Rimbaud a une vie... Rimbaud a écrit en peu de temps. Il n'a pas eu le temps lui-même de contrôler les éditions de ses œuvres. Et à part Une saison en enfer, dont on sait qu'il l'a publié lui-même et qu'il l'a véritablement contrôlé, il n'a quasiment rien contrôlé. Mais il est un peu rapide de mettre cette dispersion sur le compte simplement de l'accident. Il m'a semblé qu'on a affaire là à quelque chose de plus important, de plus profond et de plus essentiel, qui touche à ce que propose la poésie de Rimbaud.
Donc il ne serait pas extérieur à cette poésie.
Voilà, voilà. On n'a pas affaire à un accident que la critique ou les lecteurs pourraient réduire en rassemblant les textes, en faisant de ce qui n'est pas une œuvre, quelque chose d'une œuvre ordinaire. Voilà.
Un accident qui aurait causé des dégâts dans l'œuvre elle-même.
Absolument, absolument.
Et ça, c'est pas du tout votre avis.
Non, cette dimension n'est pas absente, bien sûr. Rimbaud a été rejeté par le milieu poétique parisien à une époque. C'est quelque chose qui a existé, très probablement, s'il n'avait pas été rejeté comme ça. Certaines choses auraient été différentes, mais il me semble qu'il y a dans l'œuvre une force dispersive dont il faut tenir compte, qu'il faut essayer d'entendre comme telle, et dont l'état de l'œuvre dont nous disposons n'est qu'un résultat.
Il y aurait donc du système là-dedans, et pas seulement une suite de hasards.
Absolument, absolument. C'est-à-dire une poétique. Cette dispersion touche à ce que Rimbaud cherchait avec la poésie, à ce qu'il attendait de la poésie, à ce qu'il espérait que la poésie puisse être. Alors, précisément, la poésie, pour lui, n'avait pas pour fonction, me semble-t-il, de produire du rassemblement, du sens, pas seulement, mais de produire ce que j'appelle la dispersion, c'est-à-dire du mouvement, du défigement de configuration de sens et de configuration imaginaire figée. C'est ça qu'il attendait de la poésie, cette mise en mouvement. C'est ce que j'appelle la dispersion. C'est un terme qui n'apparaît pas explicitement chez Rimbaud dans les passages où il théorise ce qu'il fait, mais qui apparaît dans sa poésie, notamment dans Le bateau ivre, dans un moment tout à fait essentiel, et que l'on peut, dont on peut faire justement une formule de ce qu'il cherchait. Oui, sur ce point, en fait, je suis allé un peu vite en parlant uniquement de dispersion, simplement parce que je parle plus de force dispersive. Ce que produit Rimbaud n'est pas un ensemble de textes isolés. On est sans arrêt, en fait, quand on regarde ce qu'il a fait, dans une logique du rassemblement et de la mise en dispersion. La dispersion est toujours un mouvement, est toujours quelque chose qui est en train d'avoir lieu et pas quelque chose qui est établi. De sorte que En fait, il a tenté des rassemblements de ses poèmes. Il a tenté diverses sortes de recueils possibles. Mmh. Les illuminations même, on sait qu'un certain nombre sont paginés, donc ça tend vers le recueil, mais ça n'est pas un recueil. La dispersion se pense chez lui comme un mouvement.
Ouais. Donc vous voulez dire, Laurent Zimmermann, que la dispersion participerait de l'architecture même des poèmes?
Alors, absolument, notamment, c'est-à-dire que la dispersion joue à plusieurs niveaux. Si la dispersion est la mise en mouvement, la rupture des configurations figées, elle joue effectivement à ce niveau de l'architecture d'ensemble, de l'œuvre, qui n'est pas vraiment une œuvre, donc à partir de là, elle joue également à l'intérieur même des poèmes et dans le rapport des poèmes entre eux. La dispersion s'établit à plusieurs niveaux. Au niveau thématique, je l'ai rappelé avec le bateau ivre, mais à ces divers niveaux également.
Mmh. La beauté, Rimbaud a voulu l'ancrer dans le réel, et c'est peut-être pour ça que la dispersion lui a permis aussi de construire ses recueils.
Absolument. C'est-à-dire qu'il va s'agir d'essayer de toucher à la poésie, à ce qui fait la fragilité du réel, son mouvement, sa fragilité, et en atteignant la dispersion, on atteint effectivement le réel. Il ne s'agit pas d'obtenir une beauté rassemblée, figée, mais une beauté qui touche au réel et qui donc ne fait pas l'économie de la dispersion.
Et ne fait pas l'économie de la vérité.
Et ne fait pas l'économie de la vérité, pour autant que la dispersion est la vérité. La vérité du monde et le rassemblement vers un sens unique, une illusion.
Le danger, c'est le déséquilibre.
Alors, c'est le danger et la force de la poésie de Rimbaud, c'est ce qui la rend difficile, c'est ce qui la rend nécessaire. Le déséquilibre, évidemment, est quelque chose qui s'agit... qui n'est pas un danger à partir du moment, c'est tout le travail poétique, où le déséquilibre est maintenu. Ce qui n'est pas évident parce que poser le déséquilibre, c'est en faire une immobilité. D'où ce mouvement dialectique constant dans l'œuvre de Rimbaud, entre quelque chose de l'ordre du rassemblement et la force dispersive qui intervient sans cesse. Donc le déséquilibre, s'il est vraiment un déséquilibre, c'est-à-dire s'il est maintenu et non pas immobilisé, est une force que cherche à atteindre Rimbaud et que cherche à faire exister Rimbaud, que Rimbaud cherche à faire exister en poème.
Dans votre avant-propos, Laurent Zimmermann, vous dites que la bonne analyse est celle qui préserve la place au déchirement dans les textes, la place de l'insaisissable, de ce qui n'a pas de sens et qui ne peut pas s'expliquer.
Absolument. Alors, ça, c'est un point très important. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous essayons de lire Rimbaud? Est-ce que nous cherchons à retrouver le sens des poèmes dont, certains poèmes, les choses sont relativement claires, mais très vite, les choses sont plus complexes. Est-ce que nous cherchons ça? Est-ce que nous cherchons à traduire Rimbaud? Un certain nombre de démarches critiques font ça, sans hésiter, et parfois même avec une sorte de véhémence qui revendique la découverte du vrai sens d'un texte, ou bien est-ce que nous essayons plutôt de maintenir le déchirement, de maintenir l'incomplétude, qui est finalement l'essentiel, puisque Rimbaud a voulu créer cela en poème, et traduire Rimbaud, quelle que soit l'ingéniosité, la nécessité parfois, parce qu'il y a des textes qu'il faut essayer de comprendre, de ce mouvement, c'est le trahir. Il va s'agir au contraire, ce qui est compliqué, d'essayer de mettre en place des démarches critiques qui laissent place à l'ouverture. Thank you.
Au fond, Laurent Zimmermann, on pourrait dire que Rimbaud est vraiment voyou, car il passe son temps à transformer du négatif en positif. C'est un peu ce que vous venez de nous expliquer.
Absolument. Et l'inverse, c'est-à-dire que ce qu'il y a chez lui, ce que j'essaie d'analyser dans une première partie qui synthétise un petit peu qui suit le fil de la dispersion sur l'ensemble de l'œuvre, il y a chez lui une recherche du rien, mais d'un rien particulier qui n'est pas le rien de l'amenuisement, qui n'est pas celui de la table rase, le rien du passé. Un rien qui est une sorte de rêve, d'avenir rêvé.
Vous parlez d'un rien à venir, hein, comme il y a le livre à venir.
Absolument, absolument. Et c'est ce qui est très particulier chez Rimbaud, que l'on trouve dès un des tout premiers poèmes qui est très connu, Sensation, qui commence par ce vers très connu, par les soirs bleus d'été, j'irai par les sentiers. Et ce poème a pour particularité de présenter un marcheur qui va vers le rien, ne rien penser, et qui, en même temps, va vers le futur. Le poème est écrit au futur, c'est le projet d'une marche. Donc, dès le commencement de l'œuvre de Rimbaud, on a une sorte de... On a du rien qui surgit au futur, comme un rêve de quelque chose à atteindre.
Un rien actif, donc générateur, comme vous dites.
Absolument. Un rien qui n'est pas celui de la table rase, un rien qui est celui qui, ce qui est le point de négativité permettant à la dispersion, au mouvement, d'advenir.
Une promesse.
Absolument, absolument. C'est ce que Rimbaud aimerait créer.
Vous faites remarquer la rime, rien bohémien.
Absolument, absolument, absolument. Absolument, cette rime, cette marche est une marche du rien, mais à entendre, non pas comme un rien de l'amenuisement, un rien de la disparition, mais comme un rien actif, effectivement, générateur, un rien de la profusion.
Il y a donc une logique de la table rase qui est celle de l'avant-garde.
Oui, oui. Et alors, ça c'est quelque chose que l'on a souvent lu chez Rimbaud, qui existe chez Rimbaud. La table rase, on fait table rase du passé pour établir l'art enfin véritable, ou... nouveau, sinon l'homme nouveau. Bon, ça existe chez Rimbaud, mais ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel est vraiment ce rien paradoxal, ce rien qui est une négativité, qui va creuser l'espace pour qu'une positivité puisse s'établir et se déployer.
Qui est tendue vers la recherche de ce qui, Bonnefoy, a appelé une nouvelle harmonie.
Oui, 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 absolument. On peut dire ça, on peut dire ça. La différence que je... Disons peut-être la nuance que j'apporterai, c'est que à aucun moment Rimbaud ne pose la possibilité, finalement, de trouver de l'un, de trouver une nouvelle harmonie, de trouver une présence. Ce qu'il propose n'a pas de terme. On est face à une relance et un mouvement qui ne s'arrête pas et qui ne rêve pas de trouver un terme.
C'est-à-dire qu'il n'a voulu associer aucun contenu au futur.
Absolument, il n'y a plus rien d'autre. Il y a des contenus, ça n'est pas un amenuisement, mais il n'y a plus rien d'autre finalement que le mouvement. Il n'y a rien d'autre à découvrir que le déplacement et le mouvement. C'est pour ça que j'en viens à parler à un moment donné de cette métaphore déterminante du papillon chez Rimbaud.
Papillonnage qui n'est pas de l'éparpillement.
Non, papillonnage qui est celui de l'ouverture au pur, au seul mouvement, sans aucun terme. Alors ce terme de papillon, il est amusant chez Rimbaud, parce qu'en fait il surgit à la fin du bateau ivre. Le bateau ivre, qui est un poème très connu, traversé du bateau qui n'a plus de haleur ni de gouvernail ou grappin.
Vous connaissez par cœur ce poème ?
Presque, il fait 100 vers. presque en entier. Et alors, il y a trois derniers quatrains qui commencent par « Mais vrai, j'ai trop pleuré ». Et donc, ce seraient les quatrains qui déclarent le refus, le rejet de l'aventure du bateau. Bon. Et alors le bateau, à ce moment-là, rêve de deux choses, que sa quille éclate. Bon. Et puis, de n'être plus qu'un bateau lancé par un enfant dans une flaque, donc d'être un petit bateau d'enfant. Alors, on connaît cela. Ce qu'on remarque moins, c'est le comparant qui sert à parler de ce petit bateau, qui est un papillon, frêle comme un papillon de mai. Et je me suis intéressé à ce terme parce que on peut remarquer que le papillon surgit très rarement chez Rimbaud. Très rarement, et deux fois seulement, dans des occurrences significatives. Bon, il y a papillonné dans son sourire, dans les réparties de Nina, bon, ce sont des choses. Et puis les questions de papillon aussi, dans ce qu'on dit au poète à propos de fleurs. Le papillon est attendu dans les accessoires d'un poème où les fleurs viennent à profusion. Mais sinon, il ne surgit que deux fois, dans Le bateau ivre et puis ensuite dans Comédie de la soif. Alors dans deux occurrences qui se ressemblent et qui constituent un parcours. Dans Comédie de la soif, on a les derniers papillons. D'un côté, le papillon de mai, le papillon de commencement, et puis ensuite les derniers papillons. Alors voilà, j'ai essayé de montrer comment un parcours s'établissait qui permet dans l'œuvre de Rimbaud qui permettait de penser et qui était en soi une pensée de la dispersion, du mouvement. Et finalement, ce bateau ivre n'échoue pas. Il échoue en tant qu'il devient un petit bateau d'enfant, mais aussi, ce qu'il faut entendre, c'est qu'il appelle avec ce comparant, il appelle une transformation qui est un brisement de la forme qui va surgir avec Comédie de la soif. Il appelle une transformation et ce que je montre dans le reste de l'œuvre, toujours ce renforcement de la dispersion, puisque Comédie de la soif est un poème constitué de vers différents, avec des instances, moi, les grands-parents, qui parlent, qui sont un petit peu insituables. On a donc un poème de la dispersion maximale. Mmh. Et chose qui me semble que j'ai tendance à valoriser, c'est un poème que j'aime beaucoup. Certains commentateurs, Pierre Brunel par exemple, disent, mais ça peut tout à fait se défendre, mais que ce poème est un moment où la capacité de composition de Rimbaud s'est relâchée. Mmh. On peut le dire. On peut aussi dire que cette dispersion de Comédie de la soif est un sommet de l'œuvre.
Alors, Comédie de la soif, Le bateau ivre, Une saison en enfer. Bon, il y a beaucoup de sommets dans l'œuvre de Rimbaud, mais le sommet des sommets, pour vous, Laurent Zimmermann, je crois bien que c'est les illuminations.
Absolument. Oui. Alors, on peut constater que souvent les lecteurs de Rimbaud sont, il y a certainement plein d'exceptions, mais sont plutôt des lecteurs d'Une saison en enfer ou plutôt des lecteurs des illuminations. On peut lire Rimbaud à partir de l'une ou de l'autre, œuvre de l'un ou de l'autre, de ces deux ensembles. Yves Bonnefoy, par exemple, lira Rimbaud à partir d'Une saison en enfer. Très résolument, dans Notre besoin de Rimbaud, on pourrait citer des passages où il est très clairement dit que les illuminations ne l'intéressent que pour autant qu'elles contiennent des pièces, Génie par exemple, Vagabond, qui s'apparentent à Une saison en enfer. Bon, il est vrai que de mon côté, j'aurais tendance à lire Rimbaud plutôt d'après les illuminations, qui me semble être ni un projet à côté, ni un accident, bon, bien entendu, mais la réalisation majeure de l'œuvre. Ce qui ne veut pas dire qu'Une saison en enfer, que je ne lis pas Une saison en enfer, au contraire. Mais, effectivement, ma lecture de Rimbaud est une lecture qui part des illuminations. C'est l'œuvre. Le point majeur, même si, comme vous le dites très justement, il y en a beaucoup d'autres, on aurait du mal à déterminer le sommet de l'œuvre. Mais, disons, les illuminations, pour moi, sont quand même l'essentiel de ce que Rimbaud a à nous dire encore aujourd'hui. Je ne parle pas du tout dans une logique là d'étude. C'est une rimbaldienne, mais vraiment en me posant la question de ce que aujourd'hui Rimbaud nous dit encore.
Je rappelais en tout début d'entretien que vous avez publié l'an dernier chez Herman, un livre intitulé « La littérature et l'ivresse », avec en sous-titre Rabelais, Baudelaire, Apollinaire. Bon, il n'y avait pas Rimbaud. Donc un sérieux retard à rattraper. Ce que vous faites avec ce nouveau livre, Rimbaud ou la dispersion, puisque vous analysez longuement Matinée d'ivresse.
Absolument. Absolument. Alors, Matinée d'ivresse est un poème extrêmement intéressant parce qu'il m'a semblé... Alors, dans une première partie, j'ai une première partie synthétique qui suit le fil de la dispersion, une seconde partie centrée sur le bateau ivre, et puis cette partie sur Matinée d'ivresse. Il m'a semblé que ce poème, vraiment, nous permettait de voir comment Rimbaud s'attaquait à un objet bien particulier qui est celui d'une certaine tradition littéraire. Matinée d'ivresse est un poème qui arrive, on pourrait dire, après vraiment beaucoup d'autres. Le plus connu de ces... L'œuvre la plus connue, allant dans le même sens, c'est bien sûr Les paradis artificiels de Baudelaire. Donc Rimbaud arrive après beaucoup de textes, de Gautier aussi, Balzac même, parlant de l'expérience des drogues, le hashish plus particulièrement, mais pas seulement. Et il s'inscrit dans cette tradition, mais pour la miner complètement et en quelque sorte la rendre impossible. On a là affaire à un geste qui nous permet de mieux comprendre encore ce que fait Rimbaud et que la logique dispersive, la force dispersive n'est pas un accident. Il aurait pu produire un autre compte-rendu d'expérience de drogue. Ça n'est pas du tout ce qu'il fait. Au contraire, de manière vraiment précise, et alors en reprenant certains éléments de chez Baudelaire pour les subvertir, j'essaye de le montrer un petit peu.
Il écrit contre.
Voilà. Il écrit pour rendre cette tradition en quelque sorte impossible. Le point majeur, c'est que ce poème, il est tout à fait impossible de décider s'il parle de drogue ou s'il n'en parle pas. Ce qui est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement... important, il est impossible de savoir, la tradition est reprise, mais pour être déstabilisée à sa base même. Voilà. Alors c'est un poème magnifique et décisif dans la perspective qui est la mienne, en effet.
Alors souvent dans l'histoire littéraire, on présente Rimbaud en insistant beaucoup sur le geste du refus, hein, puisque c'est comme ça que ça va se terminer. Tout de même, refus de l'écriture, refus de la vie littéraire, c'est un geste très violent de la part d'un écrivain. Malgré tout, il y a une œuvre qui est là, et pour vous, ce geste était déjà inscrit dans l'œuvre.
Absolument, c'est-à-dire que on insiste peut-être à raison sur ce geste final qui parfois est un petit peu tout ce qui reste de Rimbaud, c'est bien dommage. Cette force négative qui refuse la constitution de l'œuvre est en effet déjà l'œuvre en tant que telle. Et ça me semble être beaucoup plus important, plus intéressant aujourd'hui d'essayer de lire ça que de se fixer à ce geste de refus. Du reste, partiellement équivoque, parce que motivé aussi par le rejet très violent du milieu littéraire vis-à-vis de Rimbaud. Mais effectivement, lisons ce geste qui ne veut pas de la belle forme et de la poésie bien formée dans l'œuvre, plutôt que de trop nous intéresser à cet adieu qui, ceci dit, existe.
Donc volonté de dépassement de la poésie dans ses poèmes et aussi dans cet abandon à la fin de la poésie.
Absolument, c'est-à-dire volonté de dépassement de la poésie si la poésie participe du figement, volonté de dépassement de la poésie dans la poésie, par l'invention poétique, déjà, par l'invention de dispositifs par l'invention de poèmes, qui rompent avec le figement.
Alors, Laurent Zimmermann, chez Cécile Defaux, vous publiez votre propre essai, Rimbaud ou la dispersion, et vous préfacez un autre essai sur Rimbaud qui est signé Jean-Louis Baudry, son titre, Le texte de Rimbaud. Alors, c'est une reprise, parce que c'est un livre qu'on voit souvent cité dans les bibliographies, mais qu'on ne pouvait plus se procurer, car il est épuisé depuis belle lurette. Le livre a été écrit en mai et en juin 1968.
Absolument.
C'était une bonne date pour écrire tranquillement.
Oui. Pendant, Jean-Louis Baudry précise qu'il écrivait ce texte pendant la nuit, au milieu d'autres activités.
Ouais.
Voilà, on se demande parfois ce que les gens ont fait en mai 68. Voilà une
réponse. Ils écrivaient sur Rimbaud.
Voilà.
Et il a publié son texte en deux livraisons dans une revue qui était également très active à l'époque, la revue Telle Quelle.
Absolument, absolument. Et donc le texte, en fait, n'était jamais ressorti en livre. Il était uniquement publié dans cette revue. Alors pendant très longtemps, il a été bien sûr disponible. Puis, au fil des années, il a été plus disponible, de moins en moins disponible. À la Bibliothèque nationale, on ne pouvait plus le consulter qu'en microfiche. Donc, il était tout à fait introuvable, alors même...
Mais vous l'avez trouvé.
Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
Vous l'avez trouvé, vous l'avez lu, et votre lecture vous a paru déterminante pour comprendre un bout.
Oui, je pense que ce texte est un texte vraiment important, dont il était anormal qu'il ne soit plus disponible. Alors, pour les hypothèses effectivement qu'il propose sur Rimbaud, les hypothèses générales, et puis pour un certain nombre de lectures de textes. Et alors, ce que nous avons essayé de faire également dans cette édition, c'est de proposer, bon, d'une part je l'ai préfacé, mais de proposer un entretien.
Oui.
Qui...
Avec Baudry, donc...
Voilà, un entretien que j'ai eu
avec... Auteur publié dans Telle Quelle à l'époque, chez d'autres éditeurs ensuite, et qui continue à écrire des livres. Actuellement, il s'est attelé à une tâche, m'avez-vous dit, extrêmement importante.
Absolument, absolument. Jean-Louis Baudry, qui est écrivain, qui faisait partie longtemps du comité de Tel Quel, effectivement, et puis qui a toujours continué à écrire de la théorie, mais principalement des œuvres littéraires. Voilà, alors, je reviens peut-être sur l'entretien que nous avons fait, qui me semble être exemplaire quand on lit ce que dit Jean-Louis Baudry, parce que on a affaire à quelqu'un qui revient sur un texte quand même très ancien, plusieurs dizaines d'années, avec, il me semble, d'abord une clarté dans le propos, dans le rappel des thèses, bien sûr, mais avec une honnêteté intellectuelle rare. On a affaire à quelque chose de tout à fait... enfin, qui n'est pas courant, quelqu'un qui nuance, qui reprend certaines de ses thèses de l'époque, parfois qui les reprend pour les approuver, bien sûr,
ouais.
Mais qui sait aussi nuancer ce qu'il...
Et remettre en perspective, parce que ce sont des textes très anciens, comme vous dites, mais des textes très anciens tournés vers la modernité de Rimbaud, telle qu'elle se présentait en 1968.
Absolument, absolument. Alors c'est l'une des... Effectivement, vous avez tout à fait raison sur cette question de la modernité. C'est l'un des points importants de ce texte. À l'époque, un certain nombre d'autres auteurs étaient privilégiés. On connaît, bon, Lautréamont, Mallarmé. Rimbaud était un petit peu délaissé par...
Oui, il y avait Lautréamont de Marcelin Plenet, dans Tel Quel.
Absolument.
Mais Solers n'écrivait pas encore sur Rimbaud comme il le fait aujourd'hui.
Absolument, oui, tout à fait. Tout à fait, il y avait les travaux de Julia Kristeva, de Philippe Solers lui-même sur Mallarmé. Mais oui, Philippe Solers ensuite, dans la théorie, je ne sais pas s'il accepterait l'idée de qu'il écrit de la théorie, disons dans les essais et puis dans le roman avec Studio, a parlé de Rimbaud, mais bien plus tard. À ce moment-là, Jean-Louis Baudry, en quelque sorte, remet Rimbaud au centre de la question pour ce groupe.
Oui, c'est-à-dire contre la représentation et le sens, et pour l'effacement de l'auteur.
Absolument. Alors voilà, si Rimbaud n'était pas abordé par ce groupe tel quel, mais enfin, par les tenants de l'analyse textuelle, disons à l'époque, c'est parce qu'il semblait ne pas, aussi bien que d'autres, pouvoir entrer dans les cadres théoriques proposés à l'époque, aussi bien que d'autres, donc Lautréamont, Mallarmé. Et alors, la tentative de Jean-Louis Baudry va être de lire effectivement Rimbaud d'après ce cadre théorique, donc celui du refus de la représentation, de l'idée que le monde, que le réel est toujours déjà du texte, que l'auteur ne doit pas être pris en compte parce que il n'existe pas indépendamment du texte, mais qu'il est lui-même un effet du texte, un effet de ce texte par lequel il est produit. Donc autant effectivement de cadres théoriques que Jean-Louis Baudry, avec lesquels Jean-Louis Baudry aborde Rimbaud.
Alors évidemment, on connaît mieux aujourd'hui la vie de Rimbaud, donc on est plus à même de déceler la référence biographique à l'intérieur de l'œuvre qu'on était à cette époque où on pouvait, comme Baudry le fait dans son texte, parler d'écriture textuelle à propos des illuminations.
Absolument, oui. La recherche biographique a découvert certaines choses. La question se... Alors, il y a aussi l'évolution des éditions. À l'époque, Jean-Louis Baudry, il y avait des éditions qui parlaient de Vernouveau et Chansons, des choses comme ça, qui étaient des découpages d'éditeurs ne correspondant pas vraiment au projet de Rimbaud. Donc, il y a un certain nombre de changements. Mais la question demeure de savoir, est-ce qu'on peut lire Rimbaud ? Alors, c'est dans l'entretien, c'est une question que Jean-Louis Baudry pose. Est-ce qu'on peut lire Rimbaud sans la référence biographique, en effet ? C'est une vraie question qui est posée avec acuité par Rimbaud, peut-être plus que par d'autres. La question est ouverte, en effet.
En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que, quelles que soient les lectures qu'on en fait, c'est une œuvre qui se refuse à toutes les tentatives d'appropriation, aussi nombreuses soient-elles.
Absolument, oui, c'est une œuvre, l'une de ses forces, et qu'aucune école, aucun courant critique de pensée, de théorie, en effet, n'arrive à la réduire ou à se l'approprier. C'est une œuvre qui échappe. Je dirais de mon point de vue que c'est logique, puisque c'est sa force même de ne pas pouvoir se fixer, de ne pas pouvoir être arrêté. Voilà, je pense que ça fait partie, effectivement, de l'œuvre.
Une lecture infinie.
Oui.
Deux livres sur Rimbaud, aux éditions Cécile Defaux, celui de Laurent Zimmermann, Rimbaud ou la dispersion, et celui de Jean-Louis Baudry, Le texte de Rimbaud. Du jour au lendemain, Michel Mestre, Anne Franchini, François Poirier, Alain Weinstein, bonsoir.